Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Fédération française de l'Ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Bonjour à toutes et à tous, Philippe Mugnier avec vous pour cette émission qui reçoit Amande Pichegru, grand maître national de la Fédération française du droit humain. Bonjour Amande Pichegru.
Bonjour Philippe.
Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour faire le point sur l'actualité du droit humain. Depuis la rentrée de septembre, les 16 000 francs-maçons de votre fédération ont repris le chemin des loges. Pour eux, cette nouvelle année maçonnique va-t-elle être particulière ?
Eh bien oui, elle le sera, et à double titre. D'abord par la célébration d'un anniversaire, celui de la création il y a 130 ans de la toute première loge mixte de la franc-maçonnerie universelle, et ensuite par deux évolutions notables de notre constitution internationale, évolutions qui ont été votées au dernier convent, pour s'adapter encore plus aux réalités et aux enjeux nouveaux de notre monde.
Intéressant. Alors commençons par le premier point, c'est-à-dire le 130e anniversaire du droit humain. Que signifie concrètement pour vous cette célébration ?
Tout simplement un anniversaire, hein, celui de la première loge nommée le droit humain, qui a été créée le 4 avril 1893 à Paris. Et c'est la toute première loge mixte de la franc-maçonnerie universelle.
Ah oui, une première vraiment.
Absolument, parce que les femmes n'avaient pas accès au temple maçonnique sur un pied d'égalité avec les hommes. Et cette date du 4 avril 1893 marque donc un grand tournant. Elle fait suite à l'initiation de Maria de Rheims par une loge d'une obédience masculine qui dans la région parisienne le 14 janvier 1882 précisément. Et c'est Georges Martin avec quelques frères particulièrement courageux qui ont décidé d'initier Maria de Rheims, qui, éminente oratrice, a toujours été invitée, souvent par les grandes obédiences pour faire des conférences, et elle a jamais été jugée digne d'être initiée. Donc, ses frères courageux avec Georges Martin ont décidé que ça suffisait, qu'il fallait initier les femmes maintenant, et qu'il fallait donc se débarrasser du no women, pas de femmes, qui était en vigueur à l'époque. Donc, ils ont bravé un interdit fondamental de la franc-maçonnerie masculine.
D'accord, mais que s'est-il passé pour Maria de Rheims pendant ces 11 années, c'est-à-dire entre janvier 1882 et avril 1893?
Alors sur le plan maçonnique, pas grand-chose, hein, évidemment, puisque toutes les portes lui étaient fermées et que il n'était pas question pour la franc-maçonnerie habituelle masculine de la reconnaître comme une sœur. Voilà. En plus, les frères qui l'ont initiée ont dû rentrer dans le droit chemin de leur obédience d'origine pour ne pas être exclus. Voilà, elle a donc créé un premier atelier mixte avec des femmes de tous les milieux et puis qui menaient les mêmes combats qu'elle et pour que la loge soit mixte, évidemment, Georges Martin a fait partie de cette première loge.
D'accord. Et en quoi est-ce important de commémorer ces épisodes encore aujourd'hui ?
C'est l'histoire de nos fondateurs qui ont été dans la transgression et dans la radicalité. Et ce qu'ils ont fait il y a donc 130 ans est devenu d'une banalité confondante aujourd'hui. Donc ce que nous aimerions, c'est que nous n'oublions pas nos origines transgressives et que nous osions à nos tours mener certaines radicalités pour qu'elles soient des banalités demain. Voilà, tout simplement.
Votre commémoration donc n'aura rien de nostalgique ou de passéiste, j'imagine.
Ah ben certainement pas, hein. Nous sommes dans le présent, nous regardons vers l'avenir, éclairé par le passé, bien entendu, et j'ai envie de faire mienne la phrase de Gustave Mahler, la tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu.
Alors, deuxième point, c'est l'évolution de la Constitution internationale, qui, je crois, est donc le document cadre autour duquel se structurent tous vos travaux maçonniques.
Oui, tout à fait.
Vous en dire plus.
Tout à fait. C'est effectivement le document cadre, et puis il y a eu deux modifications importantes qui ont été votées lors du dernier convent, comme je viens de le dire. D'abord, changement dans la manière de qualifier nos membres. Et deuxièmement, la nature du chantier sur lequel nous travaillons en intégrant la question environnementale.
Parlez-moi de la diversité de vos membres. Comment vous les qualifiez maintenant ?
Eh bien, nous préférons dire aujourd'hui que nous travaillons à l'égalité entre tous les êtres humains, dans toute leur diversité, hein, je cite, et nous soulignons notre approche plus inclusive de toutes les diversités humaines et non plus les appeler simplement comme autrefois hommes et femmes. Nos membres sont avant tout des francs-maçons et non pas des hommes et des femmes et nous ne voulons écarter personne de nos réflexions et travaux initiatiques car nous visons à construire dans la cité l'égalité entre tous les êtres humains, j'ai bien dit tous, même les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette division sexuée du monde. Ce qui nous importe en fin de compte, cher Philippe, c'est de rappeler notre essence humaine, ce qui nous unit tous dans nos différences, les différences de genre, de génération, d'âge, de profession, etc.
Peut-on alors maintenant parler de mixité au pluriel, c'est-à-dire mixité avec un S du coup ?
Absolument, plus que jamais. D'ailleurs, le dernier numéro de notre revue Perspective traite précisément de ces mixités au pluriel. Et puis je voudrais préciser aussi que le droit humain est l'obédience la mieux outillée pour faire travailler ensemble, dans ces temples, toutes les diversités humaines. D'autant plus que notre obédience étant internationale, cette diversité se décline à l'échelle de la planète, dans des cultures, des nationalités et des langues multiples. Le droit humain est la première organisation maçonnique mixte au monde, la première dans l'histoire et la première par le nombre de membres. Notre ordre est présent dans plus de 60 pays répartis sur les 5 continents.
Du 4 avril 1893, c'est-à-dire la date de la création de la première loge à Paris, à maintenant avec, comme vous le dites, des loges présentes sur tous les continents dans le monde entier, que de chemin parcouru pour le droit humain.
Oui, vraiment. Et quel chemin ?
Vous m'avez également parlé de l'intégration de la question environnementale dans vos travaux. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
Oui, alors vous savez qu'en tant que franc-maçon, nous travaillons au progrès de l'humanité. Et il est évidemment impossible de rester passif face à tous ces problèmes de biodiversité, de surexploitation des ressources naturelles, de la pollution de la planète, du réchauffement climatique, etc. D'ailleurs, pour lequel l'humanité a sa part de responsabilité. Je voulais ajouter aussi que, à titre individuel, beaucoup de nos membres s'investissent depuis longtemps déjà dans cette cause. Et notre convent a pris une décision historique en mai dernier.
Dites-nous laquelle ?
Alors, celle d'inclure noir sur blanc dans notre constitution le fait que, je cite, « Dans ses actions, le droit humain vise à assurer l'harmonie entre les êtres humains et la nature dans son ensemble, harmonie essentielle pour notre vie et celle de nos descendants. L'harmonie entre les êtres humains et la nature est désormais un des objectifs évidents de notre travail maçonnique. Il est désormais impossible pour nos membres de dire « la maison brûle et nous maçonnons ailleurs ».
Ceci dit, cela pouvait paraître évident, mais bon, ça va toujours mieux en le disant et en l'écrivant dans vos textes, c'est ça ?
Oui, absolument, parce que le droit humain est donc la première obédience à l'écrire dans sa constitution. Encore une fois, cher Philippe, nous innovons. Notre travail initiatique sur la pierre brute en loge donne donc maintenant sa juste place au règne animal et végétal face à l'humain et plus exactement avec l'humain.
Est-ce que cela vous invite à revisiter votre définition même de l'humanisme où l'homme avec un grand H, était jusqu'alors la référence ultime ?
Oui, absolument, c'est une évidence. Et notre démarche initiatique avec la pratique assidue de notre rite doit nous aider à travailler le fameux « Connais-toi toi-même », socratique. Mais aujourd'hui, l'évolution du monde nous invite à intégrer davantage dans nos réflexions les conséquences des développements technologiques sur la définition même de l'être humain. Il nous faut réfléchir à ce qu'est l'homme aujourd'hui face aux robots, face à l'intelligence artificielle, au progrès transhumaniste de l'homme augmenté. En filigrane, à ces mutations, de la vie humaine et de son environnement, se joue la question de nouvelles solidarités, au niveau planétaire ou plus local, qui sont rendues nécessaires par toutes ces crises que connaît le monde contemporain.
Et les crises, il y en a.
Oui, et puis face à tous ces défis, notre idéal reste plus que jamais celui de la justice sociale à l'échelle de la planète.
Yolande Pichegru, en tant que grand maître national de la Fédération française du droit humain, vous nous avez parlé en première partie des missions d'une conception élargie du progrès de l'humanité à mettre pleinement en œuvre en harmonie avec la nature. C'est un vaste et ambitieux programme, dites-moi. Mais n'est-il pas trop utopique ?
Oui, mais les membres du droit humain sont des utopistes, cher Philippe, parce que, pour citer Victor Hugo, l'utopie est la vérité de demain.
De quelle utopie parlez-vous exactement ?
Celle des diversités et des mixités, celle de la fraternité et de la solidarité, celle de la laïcité, celle de la démocratie et enfin celle de notre internationalisme. Et dans nos temples, on essaye, grâce à nos rituels, à faire vivre concrètement ces utopies dans l'espoir que ce qu'on réussit à faire dans les temples, on réussira un jour à le faire dans la société, bien évidemment.
Vous considérez que vos loges sont comme des laboratoires d'utopie, en quelque sorte ?
Oui, parce qu'effectivement, dans nos loges, cette utopie devient une réalité par la force du rite. Mais on est conscient que c'est difficile de faire vivre à l'extérieur ce qu'on a vécu à l'intérieur. Mais bon, on fait de notre mieux, on essaye. Et quand on y parvient, alors là, nous vivons un pur moment de grâce qui s'appelle les Grégores.
Ah, c'est donc ceux-là, les Grégores.
C'est précisément ceux-là. Et puis c'est chouette, là, c'est un bon départ.
Oui, cela semble être un bon départ, effectivement. Mais alors, précisément, c'est quoi votre méthode pour y parvenir ?
C'est tout simple. Notre méthode s'appuie sur un rite qui est composé de mythes, de légendes, qui s'appuie sur des éléments de sagesse universelle. Et chaque étape de ce rite maçonnique permet d'avoir une meilleure connaissance de soi-même pour nous perfectionner, pour nous améliorer dans notre comportement, dans notre entourage et aussi à faire vivre nos idéaux dans la société civile.
Quel type d'individu la franc-maçonnerie forme-t-elle maintenant ?
Eh bien, elle forme des personnes qui vont donc aussi trouver dans nos loges la sagesse pour mieux réfléchir à la complexité du monde, pour prendre la distance nécessaire pour se forger des convictions, pour également sortir du prêt-à-penser que le monde médiatique et numérique nous impose. En résumé, cher Philippe, en loge, nos membres trouvent via nos rituels et notre fraternité la force de mieux remplir leurs devoirs de citoyens dans la société.
Et actuellement, dans la société, quel type de contribution apportez-vous au débat public ?
Allez donc voir notre site internet. Vous y trouverez toute la diversité de nos travaux. Les questions européennes, les questions sociales, bioéthiques, laïcité et toutes les conférences publiques qui alimentent le débat public.
Avec des questions d'actualité aussi ?
Absolument. Et notamment celle de la question de la fin de vie qui va être prochainement débattue au Parlement. Sachez qu'au droit humain, nos membres réfléchissent à la question du bien vieillir et du mieux mourir depuis longtemps, alors que le sujet ne faisait pas encore la une de l'actualité. Ces réflexions que nous menons en loge nous permettent maintenant d'arriver dans les débats d'actualité avec une réflexion distanciée, prudente et humaniste, une réflexion polie au fil des ans et de nos sensibilités différentes sur ce sujet complexe. Et comme beaucoup d'autres collectifs, religieux ou laïcs, nous avons été auditionnés fin septembre par les instances gouvernementales en préparation du prochain débat parlementaire.
Votre contribution a donc été entendue.
Absolument, et nous y avons réaffirmé notre attachement à la liberté fondamentale de chaque individu, de sa naissance à sa mort. Cette liberté comprend la possibilité aussi de choisir la nature de ses derniers soins et les modalités de son départ. Notre constitution internationale nous invite à considérer la liberté de conscience comme le bien le plus sacré de tout être humain.
Nous sommes à l'avant-veille de la Toussaint, qui pour beaucoup d'auditeurs est une période de recueillement et d'hommage aux défunts. La mort est-elle très présente dans vos rituels ?
Oui, alors en franc-maçonnerie, hein, on rentre pour apprendre à mourir en réalité, ou plus exactement à mourir et à renaître sans cesse à de nouveaux niveaux de conscience et de connaissance de soi. Et dans son parcours maçonnique, le franc-maçon apprend alors également à accepter sa finitude en tant qu'individu. Et peut-être, pourquoi pas, à ne plus craindre la mort.
Beau programme. Merci, Amande Pichegru. Il nous faut malheureusement conclure notre échange. En cette année d'anniversaire, j'invite nos auditeurs à suivre la riche actualité du droit humain sur le site internet droithumain-france.org et ses divers réseaux sociaux.
Merci Philippe. Et puis je voudrais aussi profiter de ces derniers instants d'antenne pour remercier Marc Dessouterre qui a été la voix du droit humain sur France Culture ces 15 dernières années. Un grand merci à toi Marc d'avoir si bien présenté chaque émission.
Merci également à Luc-Jean Reynaud pour la réalisation de cette émission, Claire Poissignon pour la page internet de France Culture et Arthur Dumont à la technique. Retrouvons-nous le 29 janvier pour une nouvelle émission consacrée aux droits humains. Excellent dimanche à tous.